Sokɛ ka ɲi siri bɔlɔ la kayala
musow ka fo
ka wale ɲumandon
musow ka fo
ka bonyaɲa sɔrɔ musow ka bɛ yaki
walekɛ
musow ka
fani
fa bonyaɲa sɔrɔ.
Bonjour à toutes et à tous, à chacun, à chacune. Les nouvelles d'ici et d'ailleurs vous sont présentées par votre serviteur Christophe Jubien. Vous le savez, cet été nous avons décidé de vous faire connaître le monde mystérieux des EMI, ces expériences de mort imminente qui nous sont rapportées des quatre coins du monde depuis bientôt 40 ans et dont le scénario est quasi invariable, sortie du corps, sensation de flotter, état de conscience amplifié, vision d'une lumière qui est amour, sensation d'être de retour chez soi et un enseignement sur l'amour du prochain, la compassion nécessaire envers tous les êtres, enseignement parfois sorti de vision de ce qui pourrait survenir sur Terre si nous n'y prenons garde. Cet aspect de la question, nous l'avons abordé la semaine dernière avec Nicole Dron, l'une des premières en France à avoir rendu public son témoignage. Nicole Dron a vécu une EMI en 1968, elle a donc accepté de nous parler de cette expérience et je vous propose d'écouter la seconde partie de cet entretien. Nous évoquions justement ces visions entre guillemets apocalyptiques. Que faut-il en penser? Écoutons la réponse de Nicole Dron.
Et donc en 1968, il n'y avait pas de chômage. Et on me montrait un chômage qui s'étendait sur le monde entier. On me montrait une peste. Certains m'ont dit, vous ne croyez pas, Madame Dron, que c'est le sida? C'est possible, mais je n'en sais rien. Je voyais la nature, si vous voulez, qui changeait. Je voyais des éruptions volcaniques, ce qu'on appelle maintenant des tsunamis, moi j'aurais dit des tornades, etc. Et je voyais tout ça qui arrivait, et surtout, une violence inouïe, qui me fait encore peur, cette violence-là.
Oui.
Je voyais une violence inouïe qui arrivait comme ça. Et je sais très bien que toutes ces choses-là risqueraient d'arriver si on ne changeait pas.
Oui.
J'ai vu des choses, j'ai vu par exemple le feu en flamme, le ciel en flamme. J'ai vu des choses comme ça, mais je suis très 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 prudente parce que je ne sais pas à quel niveau d'interprétation il faut que j'interprète ça. Ça peut être bien sûr au niveau physique. Ça peut être, par exemple, je ne sais pas moi, une guerre, la couche d'ozone qui s'enflamme. Je sais aussi que durant l'expérience, j'ai beaucoup été enseignée sous forme symbolique. Et je sais, parce qu'après, j'ai eu besoin de comprendre l'expérience. Donc, je me suis intéressée à tout ce qui était la spiritualité en général. Et je sais qu'on parle de la purification par le feu. Et qu'est-ce que c'est la purification par le feu? C'est le mental, purifier nos pensées. Mais ça se traduit par le feu, etc. Donc moi, je ne sais pas. Je suis prudente. Mais je sais par contre que oui, il nous est demandé cette transformation-là. Et j'ai envie de dire, eh bien, il faut aller vite pour la faire. Parce que l'humanité, eh bien, quelque part, je ne suis pas... Je ne veux pas amener la peur, mais l'humanité court à sa perte à cause du pouvoir, à cause de l'argent, à cause du sexe, à cause de ceci, cela, quoi. Et donc, il est temps de retrouver des valeurs.
Oui. Il y a une petite phrase que vous avez dit tout à l'heure, que j'avais entendue également dans votre témoignage vidéo, c'est, on vous a dit, voilà, la vie est partout dans l'univers, et vous avez, je crois, ajouté qu'on aurait bientôt des surprises. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on va être mis en présence de civilisations qui ne seraient pas d'ici, de chez nous?
Oui, j'ai été en présence comme d'un immense astronef et j'ai vu des êtres, des très grands d'ailleurs, plus grands que nous, blonds, et qui, je ne me rappelle plus de tout ce qu'ils m'ont instruit. Je n'ai ramené que des fragments de cette expérience. C'est frustrant, mais d'un autre côté, ça m'oblige à rechercher. Et ces êtres-là, je me rappelle qu'ils me disaient qu'ils nous avaient fait évoluer physiquement, mais en conscience depuis très 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 longtemps. Et je pense qu'il faut s'attendre certainement peut-être à des rencontres. Peut-être faut-il être prudent aussi. Parce que avant, enfin, je me rappelle aussi qu'on m'avait montré comme à l'intérieur de la Terre, comme un immense laboratoire, je ne sais pas où. Et j'en avais eu un malaise. D'après ce que je me rappelle, c'est comme si on faisait des manipulations génétiques. Et je ne suis pas sûre que ce soit avec une race qui soit simplement humaine. Et donc, voilà. Et là je ne me sens pas bien. Mais par contre, quand je suis allée dans cet astronef et j'étais enseignée par ces grands êtres-là, j'étais bien, j'étais en paix avec eux. C'était des êtres de paix, voilà, qui nous voulaient du bien.
Voilà. Alors, vous dites aussi que vous êtes allé, finalement, vous vous souvenez d'être allé de plan d'existence en plan d'existence, et avec l'impression de pénétrer plus profondément dans votre conscience.
Oui, c'est troublant de dire ça. C'est un petit peu, vous savez, comme quand on médite, on s'assied tranquillement et on s'intériorise de plus en plus. Et c'est un petit peu ce processus-là. J'avais l'impression de m'intérioriser de plus en plus et de me découvrir de plus en plus et en même temps d'être de plus en plus en osmose avec tout. Et je me suis trouvée, quand j'avais compris quelque chose, parce que c'est de l'information, c'est une connaissance absolue, on sait tout sans rien apprendre. Eh bien, quand j'avais compris quelque chose, mon cœur se dilatait parce que j'étais contente. Et ça se poursuivait. Je croyais que c'était fini, cette compréhension-là, mais ça se poursuivait et le décor changeait. C'était de plus en plus beau. Et je me rappelle que je me suis trouvée dans une ville de lumière, d'or et de pierres précieuses. Alors là, c'était la gloire des gloires. Oh là là, c'était quelque chose de fantastique. Et je me suis dit, mais si un jour je dois parler de cette expérience, j'irai jusqu'au bout du monde pour en parler, parce que je prenais conscience que je n'avais pas le droit de conserver une telle expérience pour moi. Parce qu'on m'avait demandé si je voulais rester ou revenir.
Oui.
Et je vous assure que on n'a pas envie de revenir. J'avais pourtant un mari et de jeunes enfants. Mais je me suis rendu compte que si je m'étais accrochée à la pointe de mon âme, à la partie la plus sublime de moi, j'aurais été capable de remettre mon mari et mes enfants dans les bras de la Providence divine, en sachant que tout serait bien pour eux. Mais si je redevenais tant soit peu dans ma nature humaine, si je redescendais, ah non, je ne voulais pas que mes enfants soient orphelins. Ah non, je ne voulais pas qu'ils puissent souffrir de l'absence de leur maman. Mais je ne voulais pas qu'ils tendent leurs petits bras à quelqu'un d'autre que moi. Et si mon mari, je voulais qu'il soit heureux, mais c'était pas forcément dans les bras d'une autre femme. Et donc, on m'a demandé si je voulais rester ou revenir, vous voyez. Et j'aurais vraiment voulu rester là-bas. Ouais. Parce que c'est notre patrie, quoi. C'est notre patrie. Mais on m'a dit que je reviendrais sur la Terre et que j'oublierais beaucoup de choses puisqu'il le fallait. Parce qu'il le fallait. Moi, je me rappelle qu'avec Malice, je me suis dit, ils veulent que j'oublie beaucoup de choses. Ben, je vais essayer de m'en rappeler. Et pourtant, quand je me suis réveillée, tout est parti, quoi.
Oui. Tout est parti. Lorsque le réveil, donc, s'est fait, évidemment, à l'hôpital. Qu'est-ce que ça a été? Les premiers instants, vous les avez vécus comment, en fait?
Ben, déjà, avant de me réveiller, j'ai mon frère qui était près de moi et qui m'avait dit de ne pas parler de cette expérience avant 17 ans. Parce que si je le faisais, ce serait considéré par le milieu médical comme un traumatisme consécutif à un choc opératoire. Donc il m'a donné des conseils, etc. Je ne me rappelle pas, quand je suis sortie de mon corps, j'étais directement dans la lumière. Mais je ne me rappelle pas, si vous voulez, mais là, avant de rentrer dans mon corps, j'ai eu l'impression de... comme si je descendais de plan en plan, donc c'était de plus en plus dense. Et j'ai vu des êtres qui étaient encore autour de la Terre, certains malheureux parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui leur est arrivé. J'ai envie de dire, priez pour tous vos amis, tous vos parents qui sont de l'autre côté. Ils ont besoin de notre amour et de nos prières. Je me rappelle être rentrée par ma tête, par la fontanelle, et j'ai réintégré mon corps. Mais avant, on a dû me réveiller par une paire de claques, en urgence. On me l'a expliqué pourquoi à l'époque il fallait faire ça. Et donc, quand je me suis réveillée, j'avais dans les oreilles une musique, mais alors, je n'ai jamais retrouvé ça. J'ai cherché plus tard dans la musique sacrée, dans les grands classiques, quelque chose qui pouvait s'apparenter à ce que j'avais entendu, jamais. Mais cette musique-là, c'est comme si elle me correspondait totalement. À fondre d'amour d'entendre ça. Et puis cette musique, est partie. Et l'expérience est partie. Et comment dire ça? À l'arrière-plan de ça, j'avais comme une paix immense, comme une sorte de plénitude. C'est comme si j'avais ramené un instant d'éternité et que j'aurais voulu conserver toute ma vie. Et je n'ai pas pu. Et c'est très, 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 très frustrant. Très frustrant. Mais je sais, depuis, c'est quand même une grâce incroyable parce que je sais que la mort n'existe pas. C'est pas que j'ai la foi. Non, c'est plus que ça. Je sais que la mort n'existe pas. Je sais que la raison, notre raison d'être sur la Terre, eh bien, c'est important. On est venu pour évoluer, on est venu pour aimer. Et donc, évidemment, la vie, elle a une toute autre couleur, quoi. Ce n'est pas simplement boulot, métro, dodo. Ce n'est pas simplement vivre pour ramasser, pour avoir. Avant, j'aurais peut-être été plus facilement dans l'avoir. Tandis que maintenant, pour moi, la direction de ma vie, c'est être.
Oui.
Retrouver consciemment cet état de plénitude que j'ai vécu de l'autre côté et essayer d'y vivre bien, parce que c'est pas parce que j'ai vu la lumière que je suis arrivée pour autant.
Oui.
C'est une chose d'avoir vu la lumière, c'est une autre chose de la réaliser, quoi. Mais essayer de tous les jours un petit peu, de réaliser un petit peu plus de ce paradis sur la terre, quoi.
Le conseil que vous donnez aux gens qui n'ont pas eu la chance, parce qu'on vous écoute, on se dit, mince, moi aussi j'aurais aimé vivre ça, et ceux qui n'ont pas eu la chance de vivre cette expérience, vous leur donnez quel conseil pour aller là où on vous a dit d'aller, finalement, là-haut?
C'est-à-dire, on n'est pas obligé de mourir pour avoir cette expérience. Il y a des personnes qui l'ont vécu spontanément, par la prière, par la méditation, ouais. Simplement parce que c'était le moment, peut-être, tout simplement. Eh bien, j'ai envie de dire d'aimer. Essayez simplement d'aimer et d'être conscient, de vivre l'instant présent, de ne pas toujours être dans hier ni dans demain, ce qui nous empêche de vivre aujourd'hui. Parce que l'important, c'est simplement aujourd'hui de le réaliser totalement.
Comment votre famille a vécu l'après-EMI? C'est-à-dire que donc, vous avez attendu de nombreuses années avant de rendre public votre témoignage, mais est-ce que vous l'avez dit tout de même à votre mari et à vos enfants?
Pas tout de suite.
Pas tout de suite.
Ah non, j'ai attendu presque 10 ans pour en parler à mon mari.
Oui.
Pas tout de suite, parce que j'ai eu très 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 envie d'en parler. Quand je me suis réveillée de mon opération, j'ai eu envie d'en parler au chirurgien, et de lui dire, écoutez docteur, est-ce que dans vos patients, il y a quelqu'un qui a vécu la même expérience que moi? Je ne pouvais pas parce que déjà pendant 48 heures, j'ai eu à gérer une souffrance immense qui ne pouvait pas être à l'époque soulagée avec des médicaments. Donc, mais quand j'aurais pu en parler, il y a quelque chose qui m'a bloqué. Je me suis dit, mais comment ils peuvent comprendre s'ils n'ont pas vécu l'expérience? Et puis, je n'avais pas d'appareil photo pour prouver quoi que ce soit. Et je me suis mis dans la peau du docteur qui pouvait dire, oh ben oui, bon, ben attention, qu'est-ce qu'elle me raconte? Mon mari, plus tard, m'a dit que j'avais bien fait de ne pas en parler. Parce qu'il m'a dit, si le médecin m'avait dit, par exemple, écoutez, monsieur Dron, bon, oui, d'accord, votre femme a pris une bonne nuit de sommeil, tout ira bien, d'accord, mais si 8 jours après, j'aurais récidivé en disant, mais si, docteur, j'ai vécu ça. Qu'est-ce qui serait arrivé? J'ai su par la suite qu'il y avait des personnes qui avaient été psychiatrisées pour des choses comme ça.
Oui. Ce qui est terrible.
Donc, c'est comme si j'avais éprouvé un instinct de conservation.
Oui.
Un instinct de conservation. Puis en plus, il y avait le fait que je n'avais pas les mots pour parler de cette expérience. Je suis obligée d'employer des mots, mais ça va tellement au-delà des mots. Et je n'avais pas des mots. Et en plus, je me serais trouvée dans le cas d'une personne qui essaye de défendre quelque chose que personne n'a pu vivre ni comprendre. Et pour moi, eh bien, de sentir qu'on l'a rabaissée finalement, et ça aurait été la désacraliser, et ça m'aurait fait trop de mal. Et à l'époque, je n'avais pas la force de pouvoir comment la défendre. Je n'avais pas cette force-là à ce moment-là.
Oui. Et cette
donc,
force,
je me suis tue pendant très longtemps.
Cette force, elle vous a été donnée et la confiance dans ce que vous aviez vécu.
Je pense que déjà, le fait de ne pas en parler, alors qu'intérieurement, je vivais autre chose, j'avais d'autres valeurs, j'avais d'autres... Voilà, c'était quelque part, c'était comme me renier. J'ai pris conscience que je n'en parlais pas. Pourquoi ? Parce que premièrement, n'avais pas les mots. J'avais peur aussi qu'on me prenne pour une illuminée. Voilà. Et donc, j'avais peur qu'on me prenne pour une folle. J'avais peur de ne plus avoir l'amour de ma famille, etc. J'avais peur du regard. Il m'a fallu certainement... C'est de l'ego, hein. Il faut reconnaître, c'est de l'ego. Il m'a fallu certainement un certain temps pour me rendre compte que, pour faire plaisir à tout le monde, je me reniais moi-même. Et c'est comme si j'allais en mourir. Et je suis persuadée qu'on peut mourir de se renier. J'en suis persuadée.
Oui.
Et puis un jour, on a eu un ami très cher qui est décédé à l'âge de 40 ans, Claude. Et je me rappelle que maman m'a dit « Oh là là, ma fille, c'est quand même fou tout ça. C'est toujours les meilleurs qui s'en vont en premier. » Parce que c'était un être exceptionnel. Alors, voilà. Et puis on a discuté de sa pathologie, de son cas. Puis je me suis surprise à dire à maman, tu sais, mais il n'est pas mort, Claude. Il n'est pas mort. Et tu sais, il m'est arrivé telle et telle chose. Et maman m'a dit, mais comment tu as fait pour ne pas en parler pendant tant d'années? Et tu sais bien que moi, ta mère, je t'aurais cru. Et j'en ai parlé après à mon mari. Et bon, bien sûr, il m'a demandé si c'était pas rêve, si c'était pas ceci. C'est tout à fait normal, j'aurais fait la même chose. Et puis, quelques temps après, un jour, je suis allée dans la maison de la presse de ma ville pour aller chercher un ouvrage pour mes enfants. Et je dois dire que presque m'est tombé des mains un ouvrage qui s'appelait « La vie après la vie » du docteur Moody.
Du docteur Moody, oui.
Et j'ai regardé comme ça en diagonale, quoi. Mon Dieu, j'ai payé ce bouquin-là en pleurant. Je fais attention qu'on ne le remarque pas. Il était, oh, je ne sais pas, c'était toute bonne heure le matin quand j'y suis allée, disons 9h du matin. À 13h, je l'avais fini. Ce jour-là, on a mangé une boîte de cassoulet, ce n'est pas mon habitude. Et j'étais heureuse, enfin, je n'étais pas seule. J'ai acheté cet ouvrage en plusieurs exemplaires, parce qu'à l'époque, quand j'en parlais, eh bien, j'ai quand même eu la chance autour de moi. J'avais des amis, des relations qui m'ont toujours dit par la suite, tu sais Nicole, ce que tu nous as raconté c'était tellement gros, mais en même temps tu es tellement équilibrée que finalement ça, les gens se sont interrogés, on ne m'a pas cru tout de suite folle, on m'a pas cru folle parce que j'ai la réputation d'avoir les pieds sur terre. Et donc j'ai pu passer comme ça ce livre-là. Et ça a fait son chemin. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que, à la limite, ce que les gens en pensaient ou pas, c'est pas ça l'important. C'est pas ça qui avait fait que je ne pouvais pas en parler. J'aurais pu en parler. C'était simplement, eh bien, mon ego, quoi. J'avais peur des autres. Et dans la mesure où je me suis rendu compte que j'étais tellement malheureuse de me renier, et que j'étais tellement bien quand j'étais vraie envers moi-même, eh bien, les choses se sont ouvertes. Ouais. Voilà, tout simplement.
Et depuis lors, votre mari a toujours été à vos côtés et...
Oui, oh, ça n'a pas été facile, bien sûr. Il ne faut pas non plus tout idéaliser. C'est vrai qu'au départ, il m'a dit « Tu ne crois pas que c'est un rêve ?» C'est vrai que c'était difficile, parce qu'il m'a vu m'intéresser à des choses qui m'étaient... insignifiante avant, comme le temps, l'espace, l'énergie, la conscience. Je dévorais des bouquins, etc. Il me demandait, mais qu'est-ce qui va, jusqu'où elle va aller, quoi. Ça a été inconfortable pour lui. Hein. Et puis, ben, tout doucement, mais il a fallu du temps quand même. Il a fallu une vingtaine d'années avant qu'on m'invite à une émission télévisée où, pour la première fois, j'ai rencontré d'autres personnes qui avait vécu cette expérience. Et mon mari était avec moi.
Ah, et comment ça s'est passé avec les autres personnes? Est-ce qu'il y a eu un sentiment comme ça de reconnaissance? Vous êtes tombée...
Tout de suite, mais ils ont bien fait, les organisateurs, les journalistes et tout, parce qu'ils nous ont interdit de parler auparavant. Voilà. Et après donc, après l'émission, bon, on ne se serait plus quitté. Bien sûr qu'il y a eu un sentiment. Et là, mon mari, parce que par exemple, j'avais dit à mon mari que dans l'expérience, je voyais l'avenir, on me montrait l'avenir, qu'à un certain moment, je voyais mes beaux-parents et ma grand-mère qui avaient à peu près le même âge, à 3 ans près, qu'ils nous quitteraient tous les trois en même temps. Et j'avais retenu que 2 d'entre eux partiraient à 3 semaines d'intervalle.
Ah oui.
Et donc, ça s'est... Et puis après, c'était ma belle-mère. Disons que ça s'est réalisé dans notre vie. Et donc, mon mari, il lui a fallu des choses comme ça pour accepter, pour... voilà. Et de l'autre côté, et quand j'ai été interviewée à la télévision et que j'ai rencontré d'autres personnes qui ont vécu cette expérience, elles aussi, mon mari était très troublé parce qu'on disait la même chose pratiquement avec les mêmes mots. Et il m'a dit, plus tard, je me suis dit, là, oui, il s'est vraiment passé quelque chose. Nicole avait vraiment vécu quelque chose, quoi.
Est-ce que vous continuez de voir d'autres expérienceurs ou seuses de temps en temps, vous vous rendez compte?
Oui, bien sûr. Oui. Il m'arrive souvent d'être invitée par des associations d'aide aux familles en deuil ou des associations qui étudient cette expérience-là scientifiquement.
Oui.
Et donc, j'ai l'occasion de rencontrer d'autres personnes qui ont vécu cette expérience et surtout, et je me réjouis, c'est quand je rencontre par exemple le docteur Jean-Jacques Charbonnier.
Oui.
Hein, qui étudie les NDE quand je rencontre. Bon, j'ai rencontré. Je sais que je dois beaucoup à l'association Yonce.
Oui.
Et il y a vraiment des gens merveilleux, tels que le docteur Chambon aussi, le docteur Jean-Jacques Charbonnier, et qui étudient cette expérience avec toute la rigueur médicale et scientifique. Et ça, il le faut. Mais heureusement, avec cette ouverture d'esprit qui fait que sinon, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas comprendre l'expérience.
Oui. Est-ce que vous, alors, ce genre de témoignages se multiplient? Je me dis que finalement, il y a peut-être 5-10 ans, je n'aurais pas fait cette émission, je ne vous aurais pas appelé. Comme quoi, vous voyez, les esprits s'ouvrent. Est-ce que vous pensez que la multiplication de ces témoignages va changer le cours, peut-être, de la vie de l'humanité?
J'en suis persuadée.
Oui.
C'est pour ça. Vous savez, personnellement, je n'ai aucun bénéfice à dire, vous voyez, j'ai vécu cette expérience. Au contraire, au départ, ça m'a beaucoup coûté. Et puis, bon, je risquais plutôt d'être ridiculisée. Mais c'est pour ça que j'en ai témoigné malgré tout. Parce que ça peut aider tellement de personnes qui ont perdu un être cher, mais en même temps, c'est un facteur d'évolution spirituelle, d'éveil.
Oui.
C'est très important. Parce que quand la vie... ne se limite plus à ce qu'on a, à ce qu'on possède et à ce qu'on voudrait. Mais ça bascule du côté de l'être, eh bien de la plénitude, de la paix, du bonheur, du partage. Ben, c'est toute la vie qui change.
Oui. Vous voyez des choses changer comme ça autour de vous, des initiatives prises dans ce sens?
On parle beaucoup, malheureusement, à la télévision, etc., on voit beaucoup de choses négatives. C'est vrai. Il ne faut pas non plus être dupe. Mais c'est malheureux qu'on ne parle pas de toutes les choses positives. Il y a des gens qui font des choses magnifiques.
Oui. Est-ce que... On arrive au terme de cette émission. Je vous pose une dernière question. Est-ce qu'il reste quelque chose de l'expérience que vous avez vécue sur le plan spirituel? Est-ce qu'il vous arrive, d'avoir cette espèce de contact avec le monde d'en haut?
Je voudrais l'avoir plus. Il me reste quelquefois comme le sentiment d'un poids, mais presque d'un poids, même s'il est léger, hein, au niveau du cœur. Comme quelque chose, comme une reliance. Mais je n'ai pas de flash, je n'ai pas de choses extraordinaires. Je pense que tout le monde, on est relié quelque part. Et dans la mesure où on est conscient, il nous arrive des rêves, il nous arrive quelquefois des synchronicités. Et oui, quelquefois je me dis, mais merci mon Dieu, parce que il y a des choses qui se mettent en place, que j'ai pensé, qui se mettent en place, que moi-même, je n'aurais jamais pu faire. Et je me rends compte quelquefois qu'il y a un petit coup de pouce de là-bas. Mais d'un autre côté, je me rends compte aussi que c'est surtout quand on œuvre, non pas pour soi, mais pour les autres, que ça arrive.
Oui. Donc, il faut rester optimiste. Rien n'est perdu, tout au contraire.
Ah, absolument, absolument. Nous avons notre part de liberté. L'avenir sera ce qu'on en fera.
Ouais. Nicole, un grand merci à vous pour ce long entretien qui a été tout à fait passionnant. Si on veut avoir de plus amples renseignements sur votre expérience, il y a un livre, 45 secondes d'éternité. On peut se le procurer dans toutes les librairies.
Oui, les librairies donc, peuvent se ravitailler aux éditions Kymzo.
Oui.
K-Y-M-Z-O. Vous pouvez à la FNAC aussi, sur Amazon. Et puis, bien sûr, dans les librairies.
Dans les librairies. Et puis, on peut également consulter votre site et la vidéo qui s'y trouve. C'est ce que j'ai fait. Et on y apprend beaucoup de choses. On tape Nicole Dron et voilà.
Oui, c'est exact. NicoleDron.com.
Un grand merci à vous, Nicole. Merci beaucoup pour ce témoignage.
Je vous remercie aussi, Christophe. Et puis je souhaite beaucoup de bonheur et de paix et d'ouverture à tous les auditeurs et auditrices.
Merci beaucoup.